chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette revue de presse du lundi 12 avril 2021. Je vous donne les titres de l'actualité. Nous commencerons par parler de la paternité. Avoir les repères pour être un bon père, ce n'est pas simple, mais pas impossible. Je vous lirai les conseils de Jacques Arène, psychologue clinicien, conseil donné à l'invisible numéro 12. Je vous lirai ensuite le témoignage d'un jeune kabyle converti de l'islam, Jonathan, un témoignage qu'il a donné à France catholique numéro 3720 et qu'il a intitulé « C'est avec l'amour que le Seigneur m'a attrapé ». En culture chrétienne, ce sera une information un petit peu originale. Je vous parlerai de l'événement qui va avoir lieu ce dimanche 18 avril à Paris. Il s'agit donc de la fameuse marche vers Notre-Dame de Paris. Je vous lirai le communiqué de presse de l'événement. Ça peut vous intéresser pour ceux qui sont sur place, mais à ceux qui sont partout en France, ce sera l'occasion d'accompagner cet événement en prière. Je vous rappelle que, à cette occasion, Monseigneur Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sera notre invité ce vendredi 16 avril à 14h. Nous commençons cette revue de presse avec la fameuse question de la paternité. Donc tout simplement, je vais vous donner les conseils de Jacques Arène, qui est psychologue clinicien. Sa fameuse question s'intitule sous la forme suivante « Et si une paternité épanouie restait à inventer ?» Voici donc les conseils qu'il a donnés à l'invisible numéro 12. Jetons un œil dans le rétroviseur. Jusqu'à récemment, l'aspect institutionnel et biologique était le fondement de la paternité. Le père permettait à l'enfant de s'inscrire dans une lignée. Il était aussi, dans le cadre conjugal, le garant de l'ouverture au monde de l'enfant. Aujourd'hui, les lignes ont beaucoup bougé. La paternité est passée de l'ère autoritaire et lointaine à l'ère affective. Et le père biologique a perdu de l'importance au profit d'une vision adoptive de la paternité, présente auparavant mais qui s'est beaucoup affirmée. Le père n'est plus une institution. Au passage, les valeurs masculines ont perdu du poids. Effort, rigueur, contrainte, autorité sont désormais mal vues, associées à une force négative. Au point que les pères ont souvent du mal à trouver leur place dans le couple et dans la famille. Parmi les nombreux hommes venant aujourd'hui consulter un psychologue, la plupart se posent des questions sur leur place de père. D'où vient cette crise? Elle est liée à celle plus générale du masculin. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui mènent la barque du bateau conjugal. Elles n'ont plus besoin des hommes, ni économiquement, ni même pour avoir des enfants. Les familles sont désormais matricentrées. Par ailleurs, les jeunes hommes ont souffert d'avoir eu des pères souvent autoritaires et ou absents et rejettent cette image paternelle. Ils ne veulent plus jouer le rôle figé, le mauvais rôle, de celui qui porte l'autorité. Ils préfèrent, comme la mère, avoir le bon rôle et donner leur avis sur l'éducation, prendre soin au quotidien des enfants. Ainsi, dans les jeunes couples, l'autorité ne repose plus sur l'un des deux parents en particulier, elle est partagée et reste du coup assez abstraite. Les femmes aussi encouragent les hommes dans cette direction. Elles souhaitent qu'ils participent davantage, appelant de leur vœu un modèle plus égalitaire. De cette nouvelle donne, on peut évidemment reconnaître un bon acquis. Les pères sont désormais plus proches de leurs enfants, les connaissent mieux et créent une plus grande complicité avec eux. Pour autant, ce désir d'une symétrie totale des rôles est un leurre dangereux. La mère a forcément une longueur d'avance sur le père du fait de sa relation avec l'enfant pendant la grossesse. Le père ne peut vouloir la même relation qu'elle. Souvent écrasé de travail et rentrant plus tard du bureau que la mère, il peine à être aussi proche des enfants qu'elle qui, malgré son travail, parvient plus en général à rester présente. Il peut être malheureux de cette situation car il ne souhaite pas reproduire ce que son propre père a fait avec lui et désire être présent le plus possible. Par ailleurs, les enfants ont aussi besoin de lois claires et fortes pour grandir. L'amour suppose un équilibre entre rigueur et tendresse pour se construire de manière solide et durable. Et c'est plus naturellement le rôle du père de rappeler la loi qui donne un cadre pour devenir adulte. C'est une fonction plus naturelle pour lui. Pour autant, Faire preuve d'autorité ne signifie pas être autoritaire et dur. L'autorité est une force qui s'impose sans violence. Bien pensée et aimante, elle est une preuve d'amour et une condition nécessaire à la croissance. Mais s'il doit dire la loi, le père doit aussi assurer une présence corporelle et émotionnelle auprès des enfants dès la naissance. En effet, de nos jours, il n'a le droit de dire non et de faire preuve d'autorité que s'il a aussi partagé les émotions, les jeux, les efforts quotidiens et les aventures de ses enfants. Ceux-ci, pour accorder du crédit et reconnaître l'autorité et la rigueur de leur père, ont besoin de sentir qu'ils partagent des moments avec eux par pur plaisir. Il n'est plus possible ni souhaitable d'être un père absent, uniquement porté par la parole de la mère. La relation du père avec l'enfant est plus ludique et exploratoire. Le père garantit la découverte du monde en dehors de la sphère maternelle. Cette juste place de père, les hommes ne peuvent la prendre que s'ils sont légitimes par les femmes. C'est d'elles qu'ils reçoivent leur rôle et leur autorité. Ainsi, on voit bien que c'est dans une juste complémentarité entre l'homme et la femme que les pères pourront trouver leur place au sein de la famille. Et pour cela, le couple parental est fondamental. C'est lui qui permet à chacun des parents de penser ses différences de fonction et de les préserver. En effet, chacun selon son sexe a un rapport à l'enfant différent, qui lui donne aussi un rôle autre. Ainsi, le père, qui ne porte pas l'enfant dans son corps, est moins angoissé par la fragilité du bambin et plus capable de trancher. Cela ne l'empêche pas d'avoir une complicité avec l'enfant. Mais il peut naturellement aider la mère à trouver une juste distance avec l'enfant, à couper le cordon pour lui permettre d'exister, sans fusion. Par cette distance, il est aussi le mieux placé pour apprendre la vie sociale à l'enfant au sein de la famille. L'avenir des pères sera donc de trouver un équilibre dans lequel chaque parent aura sa place. L'égalité entre l'homme et la femme n'est pas forcément l'identité. Les conjoints peuvent être égaux dans une juste gestion des différences. Donc, voici 7 clés pour être un bon père et 3 qui concerneront les femmes. Première clé pour les hommes, soigner son couple. Ensuite, accepter ses limites. Être cohérent. Montrer ses faiblesses. Exprimer ses sentiments. Donner un cadre. Et passer du temps avec l'enfant. Et pour les femmes, la première, donner à l'homme sa place de père. Ensuite, donner à l'homme sa place d'époux et d'amant. Et enfin, ne pas s'arroger toute la compétence. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cet article dans l'invisible numéro 12. Il s'agissait donc des conseils du psychologue clinicien Jacques Arène. Nous passons maintenant au témoignage d'un jeune Kabyle, Jonathan, converti de l'islam. Voici donc l'interview qu'il a donnée à France Catholique numéro 3720. Il nous dit « C'est avec l'amour que le Seigneur m'a attrapé. » Quelle vie était la vôtre, Jonathan, avant la conversion ? Réponse de Jonathan. « Je vivais avec ma famille. J'étais étudiant puis jeune professionnel. D'un point de vue matériel, je ne manquais de rien. J'avais mon travail, ma voiture, de l'argent. Je menais une vie normale, mais triste et remplie de peur. De Dieu, de l'enfer, du châtiment, peur des djinns, donc ce qui signifie les démons dans le Coran. Les esprits malfaisants, de la sorcellerie. J'ai été conditionnée à la peur par les mosquées que j'ai fréquentées pendant 8 ans. La conversion a-t-elle été le fruit d'un long cheminement ? Jonathan nous répond. Ce n'est pas facile de se libérer de la peur de Dieu lorsqu'on vous interdit de penser et de réfléchir. Cela prend du temps. Ce que me disait mon ancienne petite amie chrétienne sur Dieu a joué le rôle de déclic. Un soir, je me confiais et lui partageais cette peur de Dieu dans mon ancienne religion, ainsi que les prêches sur le châtiment, les punitions, l'enfer et tous les interdits qui m'empêchaient de mener une vie sereine. Elle m'a dit alors que son Dieu à elle était un Dieu d'amour. Tout le contraire de ce que l'on m'avait appris. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser aux vestiges de notre passé judéo-chrétien dans notre culture kabyle. Le signe de la croix sur le bébé emmailloté pour le protéger des mauvais esprits pendant les nuits, les visites matinales aux tombes des défunts pendant les 3 premiers jours, qui rappellent la mort et la résurrection, les proverbes du livre de la sagesse que nous transmettons toujours oralement en langue berbère. Je m'y suis d'ailleurs reconnue lorsque je les ai lus pour la première fois dans une Bible en kabyle. J'ai aussi pensé à saint Augustin et à sainte Monique, berbères comme moi. Cette recherche a duré environ 2 ans, durant lesquels j'étais déiste. Je ne croyais qu'en l'existence d'un Dieu sans plus. Je croyais que l'argent et le fait de devenir influent allaient me permettre d'atteindre un équilibre et donc le bonheur. Mais ce qui n'était pas le cas. Un soir, après le travail, je suis entrée dans une église et j'ai lu un texte invitant à prier pour les musulmans. C'est avec cette tolérance, cet amour pour mes semblables qui sont différents de moi, que le Seigneur m'a attrapée. J'ai décidé de rester et de prier, et je suis sortie de cette église en paix. À la suite d'entretiens avec une religieuse accueillante et compréhensive, qui me disait que les musulmans souffrent mais ne s'en rendent pas compte, ce qui était mon cas. J'ai alors demandé à rencontrer un prêtre, puis me suis mis à cheminer dans la foi. Qu'avez-vous alors découvert lors de votre conversion ? Énormément de choses. À commencer par l'amour infini de Dieu, qui me permet d'aimer mes prochains et de prier pour eux, y compris pour mes ennemis. La confession et le pardon, la miséricorde et la charité, la guérison et la paix intérieure, la fraternité et la notion du bien commun. La place que donne l'Église à la psychologie de l'homme et à la compréhension de ses besoins vitaux. Le couple et la famille catholique qui sont pour moi exemplaires. Un christianisme proche et respectueux de ma culture berbère, de ce qui me constitue. Je cherchais la foi en Dieu qui me donnerait la paix avec moi-même et avec tous mes semblables, qu'importe leur couleur de peau, leur origine et leur culture. Je ne l'ai trouvé que dans l'Église, là où il y a Dieu. Désormais, je vais à la messe tous les dimanches et pendant la semaine si possible. Je participe à des rencontres mensuelles pendant lesquelles nous lisons l'Évangile et apprenons à mieux le comprendre. J'aimerais aussi participer à des maraudes et faire du bénévolat. Et enfin, comment votre entourage musulman accueille-t-il votre conversion ? Je ne parle pas de ma foi avec les membres de ma famille avec lesquels je suis restée en contact. Lorsque l'on change sa façon de croire en Dieu, on doit se préparer à changer de milieu social. J'aime beaucoup ma famille, encore plus depuis ma conversion. Elle m'aime aussi. Par contre, mes relations avec la majorité de mes amis sont devenues très compliquées. Mais j'ai rencontré le Christ, et c'est là l'essentiel. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, je viens de vous lire l'interview de Jonathan, un jeune kabyle de 31 ans converti de l'islam, interview qu'il a donnée à France Catholique. Si ça vous intéresse, il y a 2 livres qui sont proposés et dont figure celui de Jonathan, à savoir le livre de Jean-François Chemin, « Ils ont choisi le Christ, ces convertis de l'islam dont on ne parle pas ». Nous passons maintenant à la culture chrétienne. Donc il s'agit d'un événement auquel vous pourrez vous unir de manière présentielle ou du moins spirituelle. Donc un événement qui va avoir lieu ce dimanche 18 avril à Paris. Donc il s'agit bien sûr de la marche vers Notre-Dame de Paris, dont le départ se fera de la rue du Bac. Je vous lis maintenant les informations du communiqué de presse de l'événement. Donc pour ceux qui sont intéressés, du moins nos auditeurs parisiens, c'est le moment de prendre des notes. 2 ans après l'incendie qui a ému le monde entier, un groupe de jeunes laïcs catholiques invite chacun, croyant ou non, à participer à une grande marche vers Notre-Dame de Paris ce dimanche 18 avril 2021. Tout en faisant mémoire de l'événement, il s'agit dans l'esprit du récent pèlerinage du M de Marie de rendre un hommage fervent à la Mère de Dieu, patronne de la France, et de lui demander son intercession pour notre pays et pour le monde d'aujourd'hui. Ce sera également l'occasion de remercier et soutenir les acteurs de la reconstruction du monument, certes dévasté, mais toujours debout. Concrètement, la marche s'élancera depuis la chapelle de la Médaille Miraculeuse, donc rue du Bac, vers 13h30, jusqu'au parvis de Notre-Dame, arrivée estimée vers 15h30, suivie par un temps de recueillement et de prière au pied de la cathédrale, en présence de Monseigneur Chauvet. En cette période difficile que nous traversons, marquée par tant de souffrances et d'incertitudes, Notre-Dame de Paris apparaît plus que jamais comme un lieu de rassemblement et d'espérance. Bien plus qu'un événement matériel et historique, l'incendie de Notre-Dame peut être vu comme un puissant symbole, ainsi qu'un appel pressant à redécouvrir nos racines profondes, et pour les chrétiens à être les véritables pierres vivantes, à la suite du Christ, pierre angulaire de l'Église. Aussi, les paroles de l'académicien François Cheng, prononcées peu après l'incendie, résument bien l'esprit de ce pèlerinage. Cette cathédrale, qui existe depuis 850 ans, en dépit de ses charpentes en bois, n'a pas connu véritablement d'incendie. Et tout d'un coup, ce 15 avril 2019 à 18h30, c'est arrivé. Cette flamme qui jaillit de ses entrailles et qui monte jusqu'au ciel avec une fureur stupéfiante, l'histoire ne l'oubliera pas. Elle retiendra cette date. Mais à un degré plus haut, il y a cette intense émotion pendant l'incendie qui s'empare de chacun. Et chacun dans la nuit, sidéré, désespéré, sent que cette émotion est partagée par les autres, et puis par tout un peuple, et par le monde entier. À ce moment-là, on est entraîné irrésistiblement dans une communion universelle. Nous ne devons jamais l'oublier. À un degré suprême, le peuple français a une révélation. C'est à ce monument-là, et absolument pas un autre, qui incarne notre âme commune chargée de spiritualité et d'histoire. Ce monument est fait de pierres vivantes, c'est-à-dire de notre chair et de notre sang, parce qu'un cœur n'a jamais cessé d'y battre. Notre-Dame, ce n'est pas seulement notre âme commune, mais c'est l'honneur de la France, c'est-à-dire un seul monument qui réunit la beauté et la vérité humaine. Si vous me le permettez, j'ajoute une très brève remarque intime. N'oublions pas que c'est Notre-Dame, donc c'est une présence maternelle. L'amour maternel, nous savons ce que c'est, quelque chose de naturel, de normal. On en jouit, on en profite, on en abuse souvent, mais sans trop s'en soucier. Un jour soudain, cette présence maternelle nous est arrachée. Alors on est plongé dans une tristesse infinie, dans un regret infini. On se dit, il y a tant de choses qu'on aurait pu lui dire et on ne l'a jamais fait. On ne lui a jamais dit « je t'aime ». Maintenant, c'est trop tard. Ce sentiment de trop tard nous a saisis au moment où la flèche s'est transformée en torche et s'est brisée. Alors un cri d'effroi nous a saisis. Mais Notre-Dame va partir sans qu'on ait le temps de lui dire adieu. Heureusement, le lendemain, on a été rassurés, elle est sauvée. Dans ce cas, ne soyons pas oublieux. Soyons pleins de gratitude et soyons fidèles à ce bien commun. Voilà, donc je vous rappelle cet événement donc, qui va avoir lieu ce dimanche à Paris, donc la marche vers Notre-Dame de Paris, dont le départ se fera de la rue du Bac vers 13h30 et une arrivée estimée vers 15h30 sur le parvis de Notre-Dame en présence de Mgr Chauvet. Et Mgr Chauvet sera présent sur les ondes de Radio Maria France ce vendredi 16 avril à 14h. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Il est temps de conclure cette revue de presse du lundi 12 avril 2021. Je vous redonne rapidement les titres de l'actualité. Avoir les repères pour être un bon père, ce n'est pas simple, mais pas impossible. Je vous ai lu les conseils de Jacques Arène, psychologue clinicien, qu'il a donné à l'Invisible numéro 12. Nous profitons aussi de l'année Saint-Joseph, bien sûr, pour confier tous les pères et futurs pères de famille. Je vous ai lu ensuite le témoignage de conversion de Jonathan, un jeune kabyle de 31 ans converti de l'islam. Un témoignage qu'il intitule avec fierté « C'est avec l'amour que le Seigneur m'a attrapé ». Un témoignage que vous pourrez retrouver dans France catholique numéro 3720. Et enfin, en culture chrétienne, je vous ai lu le communiqué de presse de l'événement « La marche vers Notre-Dame de Paris » qui va s'effectuer ce dimanche 18 avril. Un événement dont certains pourront être présents, mais aussi dont nous pourrons nous unir par la prière. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie lundi prochain.